La mention de l'expression de PLU patrimonial dans la première version du projet de loi LCAP a, en tout état de cause, posé la question du statut d'un tel outil. Si l'expression a finalement été retirée de la loi LCAP du 7 juillet 2016, peut-on quand même dire que le PLU patrimonial bénéficie d'un certain statut juridique? Et si tel n'est pas le cas, faut-il lui en donner un? Ni le code de l'urbanisme, ni celui du patrimoine ne formulent l'expression de PLU patrimonial. On ne peut donc pas ouvrir un chapitre ou une section et parcourir l'ensemble des outils pouvant constituer la base réglementaire du PLU patrimonial. De toute façon, puisque l'on parle de PLU, il revient logiquement au code de l'urbanisme de développer, le cas échéant, ce statut. Pour autant, ne peut-on pas dire que ce statut existe déjà, mais en rassemblant un certain nombre d'outils disponibles dans le régime général du PLU. Certains sont de toute manière dédiés au patrimoine, comme l'article L151-19, l'identification et la protection des éléments patrimoniaux, ou les OAP patrimoniales. Selon la conception des patrimoines retenus, il semble logique d'y ajouter les articles relatifs aux espaces boisés classés, L113-1 et suivants, ou à la trame verte et bleue, L113-29 et L151-23. Mais il faut aussi intégrer la possibilité de mobiliser les outils génériques du PLU à des fins patrimoniales, les zonages, l'écriture réglementaire, les OAP par secteur, ainsi qu'en amont le diagnostic, l'évaluation environnementale, la justification des choix ou le PADD. En définitive, c'est bien l'ensemble du dossier de PLU qui peut servir le patrimoine, sans qu'il soit aisé d'en arrêter l'intensité ou les limites. À ce titre, le statut du PLU patrimonial se dilue donc très vite dans la dimension globale de la planification urbaine. Cela pose la question de savoir s'il faut aller plus loin dans la singularisation de ce statut. Plusieurs professionnels rencontrés pendant cette recherche nous ont affirmé qu'il n'y avait pas de raison de parler de PLU patrimonial davantage que de PLU logement ou de PLU commerce, etc. Il est certain qu'au titre des nombreuses thématiques à intégrer énumérées par l'article L102-1 du Code de l'urbanisme, le patrimoine ne doit pas peser par principe plus lourd que les dizaines d'autres items qui font du PLU un véritable couteau suisse du projet politique. Pourtant, en suivant ce raisonnement, on peut noter qu'à contrario, deux thématiques au moins font l'objet d'un traitement particulier dans les PLU d'agglomération, l'habitat et les transports. Les documents de planification pour ces deux secteurs, le PLH, le Programme local de l'habitat, et le PDU, le plan de déplacement urbain, peuvent désormais être intégrés au PLU au travers d'un programme d'orientation et d'action, un POA, lorsque la planification est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale. Tel est le cas partout où l'on voit fleurir ces expressions de PLU 3 en 1 ou de PLU HD, Habitat Déplacement. Le Code de l'urbanisme singularise donc bien déjà quelques thématiques spécifiques au sein du régime général du PLU. Pourquoi ne pourrait-il pas en aller de même avec la thématique patrimoniale? C'est aussi ce qui se passe à une échelle supérieure lorsqu'un SCOT, schéma de cohérence territoriale, en zone littorale, intègre le schéma de mise en valeur de la mer. Cette intégration existe d'une certaine manière lorsque la collectivité a fait le choix d'une AVAP, anciennement ZPPAUP, et désormais site patrimonial remarquable. Le règlement de l'AVAP, désormais les futurs PVAP, rejoint le dossier de PLU au titre des servitudes d'utilité publique patrimoniale. Mais à ce titre, son fondement juridique n'est donc pas le même. La servitude d'utilité publique possède sa propre valeur réglementaire. Ce questionnement sur la capacité intégratrice du PLU interroge donc directement l'interaction possible entre PLU dit ou non patrimonial et outils dédiés prévus par le Code du patrimoine. Les seconds induisent un contrôle des travaux par l'ABF et toujours une fiscalité favorable aux propriétaires. Dans le contexte actuel, on voit mal comment les ministères de la Culture et des Finances cautionneraient une extension de ces mécanismes procéduraux et fiscaux à des PLU même fortement patrimoniaux. Une option serait alors d'élaborer une grille d'indicateurs, comme celle des écoquartiers, permettant le cas échéant une labellisation du niveau de patrimonialité d'un PLU ou d'un PLUi. La labellisation PLU patrimonial pourrait alors servir à l'obtention d'autres labels, comme ceux de Petites Cités de Caractère ou de Plus Beaux Villages de France, qui exigent, parmi bien d'autres indicateurs, la présence d'un outil juridique normatif et protecteur en matière patrimoniale. Mais la grille multicritère d'un PLU patrimonial pourrait alors se heurter à un autre phénomène contemporain du droit de l'urbanisme, l'évolution possible vers des PLU moins techniques, soutenus par des règlements allégés, et des règles qualitatives ou par objectifs. La labellisation serait alors celle du territoire, bien plus que celle de la planification.